Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Certains s'interrogent sur les raisons qui conduisent le gouvernement à ne pas aller plus loin en procédant à un confinement pur et simple de ces 23 départements. Nous devons tout faire pour l'éviter.
Jean Castex reconfine le week-end à dose homéopathique. Oui pour le Pas-de-Calais, non pour les 22 autres départements sous surveillance. La liste s'est allongée, ainsi que les restrictions, fermeture des grandes surfaces de plus de 10 000 m² et port du masque obligatoire. On est dans une course contre la montre, avertit le Premier ministre. L'exécutif mise tout sur l'accélération de la campagne vaccinale. Objectif, 30 millions de personnes vaccinées d'ici l'été. Et dans l'eau, il y aura peut-être des Français immunisés par la Russie. Bruxelles a débuté l'examen du Sputnik V, vaccin autrefois décrié, aujourd'hui désiré. La justice reconnaît enfin mon innocence. Édouard Balladur relaxé dans l'affaire Karachi, à l'inverse de François Léotard, lui condamné. L'ancien Premier ministre est donc le seul à s'en sortir indemne et ça interroge les parties civiles. Enfin, nous irons en Irak à la veille de l'arrivée du pape François, visite historique mais aussi à haut risque. La météo, grise et humide demain sur le Grand Est, mais plus ensoleillée partout ailleurs. En revanche, les températures continuent de baisser, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir à l'équilibre, plus 0,01% à 5830 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. LCL va fermer 15% de ses agences en France. Quel impact pour les salariés et les clients? Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Laurent Fromageau, le directeur de développement retail de LCL. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après les agglomérations de Nice et de Dunkerque, c'est donc le Pas-de-Calais qui devra rester confiné dès ce week-end. C'est la principale annonce ce soir de Jean Castex.
L'analyse des derniers chiffres me conduit à étendre le dispositif de confinement le week-end que nous avons mis en place à Nice et à Dunkerque à l'ensemble du département du Pas-de-Calais. Le niveau de saturation des services de réanimation se situe au plus haut de tous les départements français. Les règles du confinement s'y appliqueront dès ce week-end, du samedi 8h au dimanche 18h.
Tension hospitalière maximale, contamination qui grimpe en flèche, voilà donc les raisons qui poussent le Premier ministre à confiner dès demain soir le Pas-de-Calais. Maximilien Carlier, vous êtes à Saint-Omer, c'est là où l'on relève le taux d'incidence le plus élevé du département.
Oui, tout à fait. Ici, c'est plus de 500 cas pour 100 000 personnes. Des Audomarois qui ont clairement du mal à comprendre ce reconfinement vécu comme une injustice.
En Seine-Saint-Denis, ils ne sont pas confinés. Pourquoi ?
Je ne trouve pas ça très, très normal. Surtout que la région parisienne, où il y a beaucoup plus de population que par chez nous.
Dans le Pas-de-Calais, c'est 1 400 000 habitants tout de même, amenés à rester à la maison les prochains week-ends. Des habitants et des commerçants résignés, comme Frédéric, qui tient une boutique de prêt-à-porter.
J'ai l'impression que on nous tue à petit feu, en fait. On nous fait fermé à 6h. Les samedis où l'on travaille, on nous dit maintenant on va fermer. Mais qu'est-ce qui nous reste nous là-dedans? Qu'est-ce qui nous reste?
Juste en face de ce magasin, une officine. Chaque jour en moyenne, il y a une dizaine de tests antigéniques et à chaque fois, un cas positif. Laura, pharmacienne.
Ça fait peur parce qu'on voit que il y a eu un petit relâchement. On a aussi le sentiment que les personnes sont lassées et veulent quand même profiter.
Et d'après plusieurs médecins généralistes, ce taux d'incidence élevé à Saint-Omer s'explique par la présence importante du variant anglais plus contagieux et la proximité géographique avec Dunkerque.
Maximilien Carlier à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, unique département donc à subir la foudre gouvernementale. Paris et l'Île-de-France sont pour l'heure épargnés. En revanche, la liste des territoires placés sous surveillance renforcée s'allonge, Victor Delande, avec 3 nouveaux arrivants.
Oui, il s'agit des Hautes-Alpes, de l'Aisne et de l'Aube qui ont connu une progression telle depuis une semaine qu'ils ont franchi le seuil de 250 contaminations pour 100 000 habitants. Dans les 20 départements déjà placés sous surveillance, le virus a continué de progresser, à l'exception toutefois des Bouches-du-Rhône et de la Moselle, où l'épidémie a légèrement reculé. Pour ces 23 départements donc placés en vigilance renforcée et à l'exception du Pas-de-Calais qui connaîtra un confinement le week-end, certaines mesures supplémentaires vont être appliquées. D'abord, l'obligation du port du masque qui sera étendue à toutes les zones urbaines de ces départements où elle ne s'applique pas encore. Les préfets seront également invités à interdire ou à limiter l'accès de certains sites très fréquentés pendant les week-ends, où l'on observe notamment des regroupements de masse, trop souvent sans masque ni distanciation. Et dernière mesure, les manifestations pourront être également interdites par les préfets dans ces territoires.
Territoires où les habitants sont d'ailleurs invités à ne pas en sortir pour ne pas diffuser le virus. Victor, le gouvernement mise aussi plus que jamais sur l'accélération de la campagne de vaccination.
Oui, à ce jour, 3,2 millions de personnes ont déjà reçu au moins une injection et 1,8 million d'entre eux ont reçu les deux doses. Si on tient compte des données encourageantes du vaccin AstraZeneca et si on ajoute les livraisons de doses plus importantes dans les prochaines semaines, le gouvernement fait des projections plutôt optimistes. D'ici la mi-avril, 10 millions de personnes pourraient être vaccinées, soit la totalité des personnes vulnérables aujourd'hui éligibles à la vaccination. D'ici la mi-mai, 20 millions de personnes, soit la totalité de la population volontaire de plus de 50 ans. Et d'ici l'été, 30 millions de personnes pourraient être vaccinées, soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans. Enfin, le Premier ministre Jean Castex a assuré que la France est en tête en Europe pour la vaccination des personnes les plus vulnérables face au virus. Une bonne nouvelle qui va permettre au gouvernement d'assouplir les règles et le protocole sanitaire dans les EHPAD.
Merci Victor Dolande. Le Premier ministre a également annoncé de nouvelles restrictions concernant les commerces. Dans les départements sous surveillance, les grandes surfaces non alimentaires de plus de 10 000 m² vont devoir fermer. Et ça concerne quand même pas mal de magasins, Carole Ferry.
Oui, effectivement, pour vous donner un exemple, cela représente 64 magasins en Île-de-France, hors alimentation donc. Ce sont essentiellement les Castorama, Boulanger, Jardiland, Decathlon. Cela concerne surtout la grande banlieue, où il y a les surfaces les plus importantes, mais aussi par exemple le Printemps Nation à Paris Intramuros. Les grands magasins du boulevard Haussmann, eux, sont déjà fermés. C'est toutefois mieux que ce que craignaient les professionnels, puisqu'il était question de fermer les magasins de plus de 5000 m². Et là, ce sont trois fois plus d'enseignes qui auraient dû fermer leurs portes en région parisienne. Une exception toutefois, le Pas-de-Calais. Là, les surfaces de plus de 5000 m² devront bien fermer leurs portes. Et attention, pour toutes ces fermetures, il n'y a pas de distinction essentielle, non essentielle. Seuls les magasins alimentaires peuvent rester ouverts. Mais pas de dérogation pour le bricolage, l'informatique ou l'alimentation pour animaux, par exemple, comme c'était le cas lors du premier confinement.
Carole Ferry, du service économie d'Europe 1. Jean Castex l'a martelé ce soir. La stratégie de l'exécutif, c'est d'éviter à tout prix un reconfinement généralisé. Et ça passe, on le sait, par la vaccination. Et justement, nous aurons peut-être bientôt une option supplémentaire puisque l'Agence européenne des médicaments vient de commencer à évaluer le vaccin russe Sputnik. Souvenez-vous, en août dernier, Vladimir Poutine avait affirmé que son pays avait développé le premier vaccin contre le Covid, annonce tonitruante, accueillie avec beaucoup de scepticisme. Eh bien, 7 mois plus tard, fini les moqueries. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. L'Europe prend enfin au sérieux ce sérum.
Oui, les experts européens ont enfin reçu des données du laboratoire russe et donc ils entament ce qu'on appelle une étude continue, c'est-à-dire l'examen des résultats scientifiques au fur et à mesure qu'ils leur parviennent. En parallèle, le fabricant du Sputnik va lui constituer son dossier de demande de mise sur le marché européen. Quand il le déposera, une partie de l'expertise sera donc déjà faite. Ça permet de gagner du temps pour les autres vaccins. Entre le début de l'étude continue et l'autorisation, il a fallu compter entre 2 et 4 mois. Le labo russe se dit prêt à fournir 50 millions de doses à l'Europe à partir de juin. Un chiffre qu'il faut comparer tout de même aux 600 millions de doses commandées par les 27 à Pfizer ou aux 400 de Janssen et Janssen, vaccins qui devraient être autorisés dans une semaine. À ce stade, il n'y a pas de contact entre les Russes et Bruxelles pour un contrat global européen. Ça n'interdit pas aux États de négocier en bilatéral. La Hongrie ou la Slovaquie ont choisi de le faire sans attendre l'agence du médicament. De son côté, Emmanuel Macron n'a pas fermé la porte à des achats russes, mais pas avant de connaître le feu vert des experts.
Merci Isabelle Horry. Et puis toujours concernant les vaccins, cette première dans l'UE, l'Italie a bloqué l'exportation vers l'Australie de doses AstraZeneca produites sur le sol européen. Et ce, en toute légalité, vu que Rome n'a fait qu'appliquer un mécanisme de contrôle mis en place fin janvier par Bruxelles, dispositif visant à contraindre le laboratoire britannique à honorer ses livraisons en temps et en heure.
Écoutez le monde changer, Europe Soir, le 22-22-30.
C'est l'autre grand titre ce soir, Édouard Balladur relaxé par la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi. L'ancien Premier ministre était poursuivi pour le financement présumé occulte de sa campagne présidentielle malheureuse de 1995. En revanche, son ancien ministre de la Défense, François Léotard, a lui été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux. Finalement, donc, Édouard Balladur est le seul à sortir indemne de cette affaire, Chloé Trier.
Oui, et à 91 ans, Édouard Balladur n'était pas présent tout à l'heure pour assister à son jugement, mais il s'est félicité par un communiqué de cette décision. La Cour a certes noté que les 10 millions de francs en liquide étaient venus opportunément combler le déficit de son compte de campagne, mais n'a pas établi de lien formel entre ce dépôt et l'argent retiré en Suisse quelques jours plus tôt par l'intermédiaire Ziad Takieddine. La Cour l'a donc relaxé, faute de preuves, comme s'en est félicité son avocat, maître Félix de Bélois.
25 ans après les fait, 25 années pendant lesquelles Édouard Balladur a eu à subir toutes les rumeurs, les calomnies, des accusations publiques parfois répétées quotidiennement, Édouard Balladur est enfin innocenté.
Quant à François Léotard, son ancien ministre de la Défense, lui aussi absent ce matin, la Cour a estimé qu'il avait au contraire joué un rôle moteur et central dans les tractations autour des contrats d'armement passés par la France. Il a écopé de 2 ans de prison avec sursis au vu de l'ancienneté des faits et de 100 000 euros d'amende. Les avocats des familles de victimes de l'attentat de Karachi ont quant à eux déploré cette décision alors que dans le volet non ministériel de cette affaire, 6 protagonistes ont été condamnés en première instance par un tribunal correctionnel.
Chloé Triomphe qui a suivi ce procès pour Europe 1. Autre procès, celui du hacker franco-israélien Ulkan qui a débuté aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Jugé en son absence, Grégory Shelley, de son vrai nom, est accusé d'être l'auteur de plusieurs canulars téléphoniques malveillants visant des personnalités comme Martine Aubry. Certains de ces canulars ont pris un tour dramatique. Le père d'un journaliste a ainsi succombé à un infarctus à la suite d'un de ses appels. Ulkan s'était fait passer pour un policier et lui avait annoncé la mort de son fils. À l'étranger, malgré la peur et le sang versé, les Birmans continuent de descendre dans les rues au lendemain de la journée de répression la plus meurtrière depuis le coup d'État. 38 manifestants au moins ont été tués selon l'ONU. Parmi eux, une jeune fille de 19 ans devenue un symbole. Une foule importante s'est rassemblée à Mandalay, la deuxième ville du pays, pour ses funérailles. Venons-en maintenant à ce voyage historique et à risque. Le pape François arrive demain en Irak, une visite auquel il n'a pas voulu renoncer malgré la situation sanitaire et surtout les contraintes sécuritaires. Car hier encore, une dizaine de roquettes se sont abattues sur une base militaire, tuant un civil. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Vous vous trouvez à Erbil, ville du Kurdistan irakien, qui sera la 3e étape du pape et vous allez suivre cette visite au programme assez dense.
Oui, dense parce que le pape enverra à la fois un message religieux mais aussi politique et populaire. C'est d'ailleurs avec les autorités irakiennes qu'il commence sa visite à Bagdad demain où il va se poser aux alentours de midi et ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il verra les représentants syriaques catholiques dans la cathédrale de Bagdad. Comité restreint à cause du coronavirus, une 40aine de personnes seulement, restreint aussi pour des raisons de sécurité. Le pays a connu de nombreux tirs de roquettes ces dernières semaines contre des intérêts étrangers mais le pape François ne semble pas s'en inquiéter.
Chers frères et sœurs en Irak, salam alaikum. Je viens comme un pèlerin de paix en recherche de fraternité, animé par le désir de prier ensemble. Musulmans, juifs, chrétiens, en ces temps difficiles de pandémie, aidons-nous les uns les autres à renforcer la fraternité.
Choukran, merci. En arabe, c'est clair, il entend parler à tout le monde, faire en sorte que les communautés catholiques, orthodoxes, musulmanes puissent de nouveau cohabiter. Ici, les atrocités commises par Daesh à l'encontre des chrétiens sont encore très présentes dans les esprits, alors en signe d'unité, et ce sera un des temps forts de sa visite, il doit rencontrer samedi l'ayatollah Sistani, plus haute autorité musulmane chiite. Ce sera avant l'événement populaire de dimanche, une grande messe célébrée dans le stade d'Erbil.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Arrêtez de geindre, voilà ce qu'a ordonné au Brésilien Jair Bolsonaro alors que le pays enregistre chaque jour près de 2000 décès supplémentaires liés au Covid. Faute de stratégie nationale, plusieurs villes comme Rio de Janeiro ont adopté en urgence des couvre-feux, ce qui irrite fortement le très empathique président brésilien. Un mot de sport pour conclure. Il va falloir patienter avant de voir des bolides filer à près de 400 km/h sur la ligne droite des Hunaudières. Les 24 heures du Mans sont reportées de 2 mois. La mythique course automobile qui devait avoir lieu les 12 et 13 juin est décalée à fin août. Les organisateurs expliquent vouloir se donner toutes les chances d'éviter une deuxième année consécutive sans spectateurs en raison de la pandémie. Et puis, c'est officiel depuis quelques minutes, Bruno Genesio est le nouvel entraîneur du Stade Rennais. Sa mission, relancer une équipe qui n'a plus gagné depuis 8 rencontres. On passe à la météo, Anissa Haddadi. Bonne nouvelle, on va avoir une légère amélioration du temps demain.
En tout cas, une chose est sûre, Julien, nous aurons un temps plus sec en effet demain. Alors dès le début de la journée, bonne nouvelle, le soleil est même de retour sur les Hauts-de-France, la Normandie, en tout cas le grand quart nord-ouest. C'est à l'est que le temps reste encore instable demain, avec de l'Alsace jusqu'aux Alpes du Nord, des chutes de neige à partir de 900 mètres d'altitude et surtout un ciel très gris avec des averses toute la journée. Ailleurs, après la dissipation des brouillards, notamment dans le sud-ouest et des nuages bas au niveau de la Loire, eh bien là, le soleil fera son grand retour. L'après-midi est assez agréable demain, sauf le long de la frontière de l'Est et sur les Pyrénées où le ciel reste encore gris avec des chutes de neige en montagne. Les températures, comptez 0 degré demain matin des Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes, 2 à 4 degrés sur la moitié nord jusqu'à 8 dans le sud et puis au meilleur de la journée, toujours de la fraîcheur avec 7 degrés à Lille, 8 à Paris, 12 à Aurillac et Biarritz, 15 à Bastia et Toulouse, 16 à Montpellier et 17 la maximale pour Marseille et Nîmes.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse top à Wall Street avec Didier Hamo de boursier.com, suivi de l'interview éco. LCL va fermer 15% de ses agences en France. Quel impact pour les salariés et les clients? Pour en parler, Emmanuel Dutheil reçoit dans quelques minutes Laurent Fromageau, le directeur développement retail de LCL. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse, comme chaque soir, avec Didier Hamo de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street accélère sa chute dans le sillage des valeurs de technologie.
Oui, ça purge. Hein. Le Dow Jones, moins 1,11%, 30 923 points. Et surtout le Nasdaq, donc les valeurs de technologie encore en berne, à moins 2,11%, 12 723 points. Des valeurs de technologie malmenées qui subissent de nouveaux dégagements. Les taux d'intérêt se tendent encore et pour une fois, l'intervention du patron de la réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a été mal vécue par la bourse, ce dernier évoquant une résurgence passagère de l'inflation. C'est la grande terreur des marchés et c'est un prétexte donc pour vendre les valeurs qui étaient bien montées. Tesla encore moins 4,8% ce soir, Apple moins 1,6% à $120. Microsoft moins 0,3%, Netflix moins 1,8%, IBM moins 1,8% aussi à $120. Ça résiste un petit peu sur Google, plus 1%, Facebook plus 0,8%. Il y a un grand gagnant ce soir, c'est le pétrole qui grimpe de près de 5%, $64,15 le baril, au plus haut depuis plus d'un an, le baril WTI. Les pays producteurs, l'OPEP qui se réunissait aujourd'hui, l'OPEP a résisté à la tentation de laisser filer sa production malgré la forte hausse des cours ces derniers mois. Et donc ça donne un titre comme Exxon ce soir, le géant pétrolier américain en hausse de près de 4% à $58,71. L'euro, en revanche, redescend d'un cran sous les 1,20, 1,1970 face au dollar.
La Bourse de Paris a terminé quasiment à l'équilibre ce soir.
Oui, 5 830 points, plus 0,01%, donc pratiquement rien. Effectivement, quelques valeurs se distinguent quand même, malgré tout. Maison du Monde, plus 7,8%, alors que Majorel Investissement, contrôlé par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, détient désormais 10% du capital de Maison du Monde, après avoir doublé sa participation, et donc ça fait flamber la valeur. Puis bien sûr, les valeurs pétrolières profitent de la hausse du pétrole. CGG plus 5%, Technip FMC plus 5% aussi. Total plus 3,2% à €40,56. Donc Total qui repasse la barre des 40 euros. Et puis Thales a pris 1,6%. L'équipementier aéronautique est à €82,98 après des comptes qui ont plutôt bien résisté à la crise sanitaire. Un bénéfice net annuel de 483 millions d'euros. Thalès en hausse d'1,6% ce soir.
Exception du jour, le titre Vivendi qui a clôturé en forte baisse de plus de 4%.
Vivendi qui avait grimpé le mois dernier en attendant l'arrivée en bourse de sa pépite Universal Music. Vivendi repère 4,2%, oui, 28 euros. Le marché attend une clarification de la stratégie du groupe qui a confirmé son intérêt pour reprendre M6. Le résultat net de Vivendi est ressorti l'année dernière à 1,44 milliard d'euros. Il y a des prises de profit donc en bourse, moins 4,2% sur le titre Vivendi qui revient à 28 euros ce soir. Sur les autres places financières, ça baisse un petit peu sur le DAX à Francfort, moins 0,17. Bruxelles, moins 0,6. Madrid monte de 0,3%. Milan aussi est en hausse, plus 0,17. Et donc le CAC 40 pratiquement à l'équilibre. Plus 0,01%, 5 830 points.
Merci beaucoup, Didier Hameau de Boursier.com. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Laurent Fromageau.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur du développement retail du LCL. Alors si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que l'on a appris aujourd'hui que comme les autres banques, le LCL allait fermer de nouvelles agences. 250 pour être concret, ça va faire passer le réseau à 1350 agences contre 1600 aujourd'hui. Les agences concernées sont de petites agences dans lesquelles il y a moins de 4 collaborateurs. Une fois de plus, ça envoie le signal que les réseaux bancaires ont trop d'agences, Laurent Fromageau ?
Le signal que nous envoyons n'est pas celui-là, Emmanuel. Le signal que nous envoyons est que nos clients changent, que les modes de consommation ont changé, et que la crise d'ailleurs a accéléré ces évolutions. Et je vais en citer trois. Premièrement, c'est les usages digitaux, le click and collect en ville comme à la campagne. C'est la place prépondérante qu'a pris la relation à distance. Aujourd'hui, 50% des rendez-vous conseils faits avec les conseillers sont à distance. C'était 20% il y a 12 mois, juste avant le confinement. Et puis, nos clients attendent du conseiller de l'agence une qualité de relation, une qualité de conseil renforcée. Voilà, ils veulent des solutions rapides, immédiates pour régler leurs problèmes ou réaliser leurs projets.
Alors, si on prend plusieurs de ces points dans le détail, le premier point que j'entends, c'est que la crise a fortement changé nos modes de consommation et donc la petite agence bancaire du coin n'a plus vraiment de sens parce que quand on veut faire de vraies opérations, on a besoin de conseillers peut-être plus formés dans de grosses agences. Est-ce qu'on peut le résumer ainsi ?
Mais on peut le résumer ainsi, Emmanuel, parce qu'effectivement, on est tous concernés, on l'a vu, les ados, nous-mêmes, les grands-parents, tout le monde a découvert Teams, Zoom, FaceTime, est prêt à travailler à distance, le paiement à distance, le paiement sans contact. Et donc aujourd'hui, ça bouleverse le mode de relation. Et nous, ça nous permet d'adapter notre réseau pour mieux répondre à ces besoins, faire en sorte que nos agences...
Mais du coup, vous l'adaptez plus vite que prévu parce que vous vous êtes rendu compte que nous avions changé plus vite que ce qui était prévu nos modes de consommation et l'utilisation, par exemple, des téléphones portables ou d'Internet.
Alors en fait, on voit que les rythmes d'échangement de nos clients accélèrent. Donc nous, on accélère le pas de la transformation. Il faut savoir, Emmanuel, que c'est une démarche qu'on avait engagée depuis 2016. Mmh. Nous, il y avait une idée reçue qui disait que la banque de demain, c'était la banque digitale, c'était la néobanque, c'est le chatbot, les robots. Nous n'y avons jamais cru. Et en fait, la crise a battu en brèche cette idée reçue. Et d'ailleurs, il y a une étude récente de l'IFOP qui a dit qu'aujourd'hui, les banques qui avaient rassuré les clients pendant la crise, c'est celles qui étaient en mesure à la fois d'offrir des services bancaires à distance et à la fois la présence du conseiller pour le rassurer. Et donc, aujourd'hui, que faisons-nous ? C'est ce qu'on appelle, nous, le modèle 100% digital. On veut être 100% digital pour répondre à ces usages digitaux et à ces mouvements de fonctionnement. Et on veut aussi être 100% humain avec des conseillers capables d'apporter des réponses à leurs clients rapidement avec des niveaux de délégation. C'est ce qu'on appelle, nous, la responsabilité en proximité. Faire que nos directeurs d'agence et nos conseillers soient en mesure d'apporter des solutions immédiates. Et pour ce faire, eh bien, il convient plutôt d'être 4, 5, 6 ou 10 dans une agence parce qu'on partage les compétences, parce que quand l'un est absent, on peut rester disponible pour répondre immédiatement au téléphone, pour appeler des clients, pour traiter des sujets, plutôt que les agences à 2 ou 3 qui aujourd'hui n'ont plus de sens. On venait dans les agences pour réaliser des opérations courantes. Aujourd'hui, tout ça, on le fait avec l'appli mobile et le CFD compte. Mmh. Et c'est vraiment une vision qui a porté ses fruits ces dernières années. Et nous, on souhaite embrasser l'avenir et répondre à ces demandes de nos clients que nous voyons émerger très fortement.
C'est encore plus vrai pour un réseau comme le vôtre. J'aurais dû préciser que le SCL appartient au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, pour le moment, est le réseau qui ferme le moins d'agences, mais c'est, on le comprend, en raison de leur clientèle. Vous avez une clientèle aussi d'entreprise, vous êtes moins dans le grand public. C'est pour ça que vous accélérez aussi.
Alors nous sommes très présents auprès des entrepreneurs. C'est dans l'ADN de l'entreprise. Le Crédit Lyonnais a été créé il y a 157 ans par Louis Germain, un entrepreneur lyonnais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes par exemple présents dans une ETI sur deux en France. Et donc, évidemment, c'est un élément qui nous amène à accompagner les entreprises dans la transition climatique, dans la transition numérique de façon très concrète. Mais pour autant, Emmanuel, nous sommes la première banque urbaine avec 6 millions de clients urbains. Et ça aussi, l'ADN de la banque fait que nous sommes nés à Lyon. Nous avons grandi à Paris, puis Marseille, puis d'ailleurs dans les plus grandes villes du monde. Et qu'aujourd'hui, cet ADN urbain fait que 80% de nos agences sont en zone urbaine.
Et ce que je veux dire, c'est que votre public à vous mute peut-être encore beaucoup plus vite que celui de d'autres agences. Même si tous les réseaux, on le voit par exemple chez Société Générale, mais qui a un peu la même tessature de clientèle que vous, accélèrent.
Alors nous, on accélère, mais pardon Emmanuel, sur les clients des particuliers, des professionnels et des clients patrimoniaux, notre base client croît chaque année parce que, évidemment, une banque retail, une grande banque nationale, bien sûr, doit disposer d'expertise et de relais de croissance pour les banques privées, pour les entrepreneurs, pour les professions libérales, par exemple, mais doit disposer d'un socle de clientèle retail, comme on dit, nous, ce sont des urbains, que l'on cherche à satisfaire. Notre objectif, c'est d'être première banque urbaine, numéro un de la satisfaction client. Et donc, nous accélérons sur les entreprises, nous accélérons sur les particuliers, nous accélérons sur les professionnels.
Justement, quand on veut aller chercher les particuliers, ça passe souvent par le prêt immobilier. C'est là-dessus qu'il y a une grosse conquête de clients de la part des banques. Les prêts immobiliers qui vont un petit peu se durcir là dans les semaines à venir, puisque maintenant, il va falloir compter, vous, banquier, l'assurance emprunteur dans le coût du crédit. Est-ce que du coup, ça va faire que des gens ne vont plus pouvoir emprunter dans les mois à venir ?
Alors non, Emmanuel, les clients pourront toujours emprunter et venez chez LCL, nous étudierons les meilleures solutions pour vous accompagner. Alors pour autant, Emmanuel, il est vrai qu'avec les nouvelles recommandations, nous sommes amenés à devoir limiter les taux d'endettement à 35%. Alors on a des marges de manœuvre, sur 20% des prêts que nous faisons, on peut trouver des solutions et des marges de manœuvre. Donc oui, il y a une limite. Mais pour autant, il y a des marges de manœuvre. Et en venant nous voir, nos conseillers pourront sans doute trouver avec vous, avec le bon niveau d'apport personnel, avec la bonne durée, comment vous accompagner sur vos projets immobiliers. Eh bien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter.
Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, Laurent Fromageau, je rappelle que vous êtes le directeur du développement retail de LCL. Un grand merci d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve demain, 22h20. À bientôt.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous vous intéresserez aux galeries qui, en ces temps de Covid, sont devenues les nouveaux musées, en quelque sorte. Votre invité, Emmanuel Perrotin, l'un des plus grands galeristes de France. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Voyage en Irak, l'audace du pape François, titre La Croix. Je vous en parlais dans le journal, le souverain pontife entamera demain une visite de 3 jours en Irak. Visite historique et hautement symbolique, car si l'Irak est un pays à majorité musulmane, il est aussi considéré comme l'un des berceaux du christianisme, rappelle Dominique Greiner dans son édito intitulé Au pays d'Abraham. Et pour cause, c'est dans la ville antique d'Ur, que va d'ailleurs visiter le pape, que serait parti Abraham, le patriarche commun aux 3 grands monothéismes. Historique, le mot revient sur toutes les unes demain. La Croix donc, mais aussi l'Opinion ou encore Libération, dont l'éditorialiste salue le courage du pape François. Déjà en raison des circonstances, menaces sanitaires, l'Irak n'est pas épargné par le Covid, mais aussi sécuritaire. À tout cela s'ajoutent les attentes très élevées des différents haute que va rencontrer le souverain pontife. Comment en effet réconcilier des ambitions aussi diverses que soutenir les chrétiens d'Orient, renouer les liens avec l'islam chiite et donner à l'Irak l'occasion de montrer un autre visage que celui du terrorisme, s'interroge Dov Alphon. C'est à un tout autre sujet que le Figaro consacre sa une. L'Europe plongée dans le grand désordre vaccinal, titre le quotidien. Face aux lenteurs de l'Union européenne et au retard de livraison des laboratoires, une demi-douzaine d'États membres rompent les rangs pour solliciter l'aide de la Chine, de la Russie ou d'Israël. Dernier coup de calife en date, le chancelier autrichien et la première ministre danoise qui se sont rendus aujourd'hui en Israël ont conclu un accord pour le développement de vaccins de la prochaine génération plus efficaces contre les mutations du coronavirus. Avant eux, les pays d'Europe centrale et orientale, s'estimant mal servis, se sont tournés vers la Chine et la Russie. Bref, sur le vieux continent, les champions de la vaccination sont la Grande-Bretagne et la Serbie. Est-ce un hasard s'ils sont en dehors de l'Union européenne, questionne Philippe Gigeli dans son édito. À lire donc demain dans le Figaro.